Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois personnes autour de la table, à commencer par Lassini, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Thomas, bonjour.
Bonjour.
Et Robin.
Bonjour.
Alors, tous les trois, vous êtes ici pour nous annoncer une date festive. Le samedi 18 novembre, à la salle des fêtes de Minglon, une soirée de soutien aux migrants. Alors, qui voudrait nous présenter cette soirée, pour commencer ? Robin ?
Eh ben, allez, je veux bien. Donc, la soirée en elle-même, le programme, donc, il y aura à partir de 16h30 des projections de petits films documentaires, un info-kiosque, des informations qui seront échangées, des débats, des discussions autour de la situation des migrants qui arrivent en ce moment principalement par les Alpes, Briançon, Gap, et des solidarités qui se mettent en place là-bas et dans le Diois.
Robin, je t'arrête juste deux secondes. Ces petits documentaires émanent de qui ?
Alors, il y aura sans doute un petit documentaire qui a été tourné à Gap il n'y a pas très longtemps, là, il y a moins d'un mois, donc qui présente un peu la situation actuelle. Et après, l'agence est pas plus sur la programmation encore des autres documentaires. Donc ensuite, il y aura un repas à 19h et début des concerts à 20h. Donc les concerts, ce sera... On aura du hip-hop avec 107 La Carie, de la cumbia avec Guanabana Groove, et puis un petit set par DJ Monette Wawa. Et je pense que c'est en même temps qu'il y aura des performances de Jaimito.
Voilà. Et donc, tout ça autour du soutien des migrants. Ces musiciens-là jouent aussi en soutien ?
Oui, ils viennent jouer en soutien tous. Donc... tous les bénéfices seront intégralement reversés au collectif de soutien aux migrants dans le Diois et dans les Hautes-Alpes. Donc je précise que le repas et l'entrée, ce sera à prix libre, tout est à prix libre.
Alors, cette organisation aura lieu à la salle des fêtes de Minglon. Comment ça s'est passé entre les gens de Minglon et vous pour pouvoir organiser cette soirée ?
Tout simplement, il y a des gens de Minglon qui sont investis, impliqués dans le collectif de soutien aux migrants. Donc on cherchait un endroit qui puisse nous accueillir pour cette soirée de soutien. Comme on n'a pas trouvé sur Die, on s'est rabattu sur Minglon, tout simplement.
Vous aviez fait des démarches auprès de Die aussi ?
Oui.
Et au niveau de quelles instances ?
De la mairie pour notamment la salle polyvalente, pouvoir utiliser la salle polyvalente qui n'était pas disponible ou pas accessible.
Ah, d'accord. Voilà. Bon, on n'a pas eu de date en temps et en heure.
Il n'y avait aucune date jusque pas avant l'année prochaine, en fait.
Thomas, donc tu œuvres dans ce collectif de soutien aux migrants. Et quel est ton rôle dans cette organisation ?
Disons, c'est pas une organisation où chacun a un rôle, un parti, c'est pas une organisation très formelle. C'est pour ça qu'on l'appelle collectif, en tout cas pour le moment. Et ça a certainement vocation à le rester. Pour revenir un tout petit peu sur l'histoire de ce collectif de soutien aux migrants, il s'est formé à partir de l'été dernier, en lien avec les copains de Briançon, de Gap et de Vennes, donc des Hautes-Alpes, qui eux, étant dans une situation frontalière vers l'Italie là-bas, avaient déjà commencé à accueillir des migrants, principalement d'origine ouest africaine et de jeunes hommes qui passent la frontière donc comme ils peuvent, à pied, etc., pour se rendre en France. Donc ces gens-là avaient déjà commencé l'année précédente à accueillir et à soutenir quoi ces jeunes. Donc à leur trouver un lieu, un logement, de l'alimentation, des vêtements s'ils en avaient besoin, à les accompagner aussi dans les procédures juridiques qui pouvaient être faites de demande d'asile, etc. Comme la plupart ensuite qui demandent les procédures sont souvent très longues, etc. Et les gens ne sont pas pris en charge par les institutions, l'État, le département, la mairie. Donc voilà, il y avait l'urgence en fait d'accueillir ces gens dans des éventuellement des familles, dans des maisons, des squats, etc. Donc voilà, il y a tout ce contexte-là d'arrivée de migrants depuis l'Italie et de formation de réseaux d'entraide locaux qui nous ensuite voilà on s'est formé d'abord en soutien à ces gens, aux copains là, aux copines des Hautes-Alpes. Donc ce qui a été fait dans un premier temps par exemple, c'était là le groupe du Diwa, ça a été d'organiser des cantines pour donner des repas toutes les semaines le jour du pointage à la préfecture des Hautes-Alpes à Gap, le jour où les migrants qui arrivent doivent pointer pour présenter informer de leur présence et faire continuer les procédures d'accueil. Donc voilà, ça a été fait ça dans un premier temps, la cantine, et puis ensuite un appui aussi en fourniture de tout genre, en alimentaire pour les maisons d'accueil des migrants, parce qu'ils ont beaucoup, voilà, ils sont souvent un peu dépassés quoi par les circonstances. Donc voilà, c'était ça. Et puis aussi commencer à réfléchir à l'accueil dans le Diwa même, parce que là-bas, les lieux d'accueil aussi sont saturés, etc. Il y a toujours des gens qui arrivent. Donc réfléchir à l'accueil dans le Diwa avec une idée que les gens ils viennent ici éventuellement de passage, ils vont peut-être aller ailleurs s'ils ont des contacts ou d'autres projets, mais ils peuvent aussi décider de rester et donc un accueil on va dire réfléchir sur un accueil de long terme et un accueil qui est recevoir les gens, les loger, les nourrir, mais aussi trouver des formations éventuellement, des appuis juridiques, voilà, il y a une infinité de choses à faire pour accueillir au sens plein, noble du terme. Recevoir, héberger, loger, voilà. Donc, ça s'est fait d'une dynamique, ce que je voulais dire, vraiment liée à cette urgence, au fait que des gens arrivent, qu'il faille les accueillir. Et puis, ça s'est fait de façon locale et informelle. Comment on fait pour accueillir ces gens et qu'ils vivent dignement et qu'ils puissent rebondir ou rester, etc. Donc, c'est tout ça pour dire, voilà, j'ai pas un rôle défini. On se réunit toutes les semaines pour voir ce qu'il y a à faire au niveau de la cantine, de l'hébergement, du conseil juridique, etc. Chercher les ressources, les personnes clés. Pour le moment, on n'est pas beaucoup, mais on est de plus en plus. Et il y a de plus en plus de familles qui éventuellement sont intéressées ou se proposent pour héberger. Donc, c'est, en gros, voilà, c'est le travail, c'est accumuler tout ce réseau de gens et de moyens pour accueillir dignement les migrants.
J'avais une question un petit peu globale. Est-ce que vous avez estimé du nombre de personnes dont vous vous occupez et vous-même, vous êtes combien dans votre collectif à pallier à cette situation?
Après le collectif, on ne sait pas décompter parce que c'est un réseau quoi. Donc il y a un noyau dur peut-être de gens qui sont souvent, alors je sais pas, 15, 20, qui sont souvent aux réunions et qui sont un peu les chevilles ouvrières. Mais autour de ça, par connaissance, le réseau il est assez vaste finalement et potentiellement encore plus vaste. D'ailleurs, on va certainement l'élargir aussi lors de la soirée de soutien et donc les gens aussi pourront s'informer concrètement de ce qui peut être fait, de ce qu'on fait déjà, etc., de ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, on n'a pas un nombre fixe du tout. Et qu'est-ce que tu demandais là-dessus ?
Et puis, combien de personnes vous êtes occupé ?
C'est pareil, là, les cantines à Gap, c'est indéfini. C'est les jeunes qui se présentent pour pointer et qui vont manger là. Après, des copains vont aider les gens à Briançon, à Gap, à Vennes. À Vennes, il y a une maison aussi qui s'est ouverte, le Choum. Donc voilà, après, c'est pour les gens qui... Encore une fois, c'est... infini et indéfini, parce que les gens viennent de passage, donc on ne sait pas finalement combien. Il y a au moins des centaines de personnes qui sont dans ces différents lieux d'accueil. Et puis ici, sur le Diwa, pour le moment, je crois qu'il y a... Il y a peut-être 5 ou 6 personnes, un peu plus, une petite dizaine de personnes accueillies. Je n'ai pas le compte exact, dans 4 ou 5 familles. peut-être plus parce que il y a d'autres contacts pour accueillir des gens dans d'autres villages du Diwa. C'est pas que Adi, c'est dans les villages du Diwa. Voilà, il y a la Sini qui est à Glandage, là, notre ami qui est avec nous. Il y en a d'autres qui sont Adi, vers Luc, etc. Bon, voilà, il y a différents. Encore une fois, c'est ouvert. Les gens arrivent, nous on s'organise et puis voilà, on peut pas se décompter parce que c'est en train de se faire.
Ce qu'il faut savoir, peut-être, c'est là au niveau de la frontière, donc à Briançon, donc là les passages, c'est une trentaine de personnes en moyenne par jour, par semaine, pardon, qui arrivent, quoi. Là il y a un mois, il parlait de 700 personnes qui étaient arrivées, donc là on doit être pas loin de 1000 maintenant, 1000 jeunes qui sont arrivés depuis l'Italie, depuis cet été, quoi.
Et qui sont toujours installés en ce moment dans les Hautes-Alpes, comment ça se passe, hein? Puisque vous parliez tout à l'heure de présence, de signaler leur présence à la gendarmerie une fois par semaine, je crois. Donc ils sont cantonnés sur le territoire, tous ces migrants qui arrivent.
En fait, la procédure, c'est parce que comme c'est beaucoup de mineurs, pour se faire reconnaître mineurs, ils doivent aller pointer au département. À la préfecture. Donc c'est là où ils vont pointer à Gap, à la préfecture. Pendant cette démarche là, ils sont cantonnés autour de Gap. Après, donc, ils sont hébergés. Donc il y a eu des lieux d'ouvert, des squats d'ouvert, des familles d'accueil. Il y a la paroisse aussi qui s'est proposée. Donc il y a plusieurs lieux d'accueil qui sont organisés à Briançon et à Gap, à Vennes, pour héberger ces gens là. Donc notamment pendant ces démarches, cette procédure-là qui se fait à la préfecture de reconnaissance du statut de mineur ou pas. Voilà. Mais après, une fois que ces démarches-là sont faites, bah, y en a qui restent et il y en a d'autres qui continuent leur chemin, quoi.
Lassini, toi, alors, tu es arrivé en France il y a combien de temps environ?
Je suis arrivé en France, ça fait un mois.
Un mois?
Oui.
Et tu es arrivé par Briançon également, ou... oui. Comment vous vous êtes rencontrés justement?
Bon, je suis arrivé par Briançon et j'étais à l'hôpital de Briançon parce que en marchant un pied sur la côte de l'échelle, je suis tombé vraiment très mal au bras. Et là, du coup, la police municipale de Briançon m'a envoyé à l'hôpital de Briançon pendant une semaine. J'ai fait une semaine là-bas et du coup, il y a une dame qui m'a envoyé chez une bénévole qui vient de Briançon. Grâce à elle, je suis venu à Gap. Et là, Gap, aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une maison des bénévoles d'une famille, des bénévoles qui nous accueillent très bien à Vennes. Et là, du coup, je suis resté là-bas quelques temps et une famille d'accueil voulait juste un jeune immigrant chez eux. Et là, du coup, aujourd'hui, je me trouve dans la région d'ici. Et là, je suis vraiment heureux d'être parmi ces bénévoles vraiment qui nous soutiennent, qui nous aident beaucoup, qui savent très beaucoup de notre histoire, comment ça se passe, comment on vécu notre histoire et comment on nous maltraite et comment on est. Et là, il y a d'autres qui comprennent vraiment comment c'est vraiment dû pour nous, quoi, d'être ici en France. Et vraiment, c'est pas facile d'arriver ici en France.
Et comment tu te sens pour le moment? T'as encore besoin de récupérer en quelque sorte?
Bon, actuellement, je me sens mieux avec des bénévoles qui sont juste toujours à côté de moi, qui m'invitent chez eux à la maison. D'être parmi les familles qui m'invitent à voir plusieurs personnes et plusieurs bénévoles. Du coup, avec la soirée, de faire une vraie soirée, organiser vraiment tout le monde, d'être comprendre pourquoi les immigrants ils sont là. Ils sont juste là pour ça. Et du coup, vraiment, je suis heureux pour eux parce que vraiment, ils m'ont montré une vie meilleure ici. Parce qu'il me faut sortir souvent dans la ville, aller me balader et du coup, à faire des jeux, à travailler souvent.
Et toi, Lassini, est-ce que tu veux dire pourquoi tu es ici, alors, en France?
Bon, moi, je suis ici en France parce que c'est vraiment compliqué pour moi et au pays. Parce que je suis au Fener, j'ai perdu ma mère et mon père. Et je n'ai pas de soeur, je n'ai pas de frère. Je suis seul dans la famille, je vivais, c'est ma grand-mère qui m'a élevé pendant très longtemps. Du coup, et là, et je ne croyais pas que j'allais être ici en Europe, mais c'était grâce à mon cousin que je suis venu avec lui. Et là, du coup, on n'a pas pu arriver ensemble parce que vraiment, on a vraiment se noyé dans la mer. Et du coup, on était les premiers à être sauvés. Et lui, il n'a pas pu être sauvé. Parce qu'on était vraiment nombreux dans ce Josac. Et là, du coup, c'était un peu dur pour moi. Mais avec les bénévoles qui m'ont vraiment soutenu très fort et d'avoir le courage, d'avoir la foi d'être ici. Et...
Est-ce que, après toutes ces traversées, que ce soit le continent et puis la Méditerranée, plus l'Italie, je suppose, vous êtes arrivé par l'Italie?
Oui.
Et une fois en France, est-ce que vous vous sentez soulagé ou alors vous avez encore cette oppression et puis qu'est-ce que vous espérez aussi pour vous à l'avenir?
Bon, une fois je suis arrivé en France, je ne savais pas que c'était comme ça. C'était dû de passer au conseil départemental, se faire enregistrer et là, et souvent la gendarmerie française qu'elle vous voit et là du coup ils sont obligés de vous ramener jusqu'en Italie. Et là, c'est un peu compliqué pour nous et vraiment c'est dur, mais avec les bénévoles qui sont juste là pour nous soutenir, vraiment.
Là, j'ai une question. Toi, tu dois aussi signaler ta présence à la préfecture, c'est ça?
Oui.
Et on te donne aucun document qui stipule ou qui notifie ton identité, par exemple?
Bon, je suis déjà allé au conseil départemental de Valence. Et là, du coup, j'ai déjà fait mon interview et du coup, j'attends le résultat, mais ils ne m'ont rien donné. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement pour moi. Bon, je suis dans une famille d'accueil dans la région et là.
Et quand, par exemple, tu as été convoqué à Valence, vous êtes auprès de lui aussi pour pouvoir l'assister?
Là, en l'occurrence, c'était la famille chez qui Lassini habite, ouais, qui l'a emmené et qui est toujours avec lui. Ouais. Ce qui est important, parce que c'est vrai que quand les gens arrivent en Italie, souvent, on leur fait signer des papiers, des machins, sans traduction, on leur parle en italien, donc là, ils ne comprennent pas. Et on leur fait signer des papiers comme quoi ils demandent l'asile en Italie, et puis mais on leur explique pas les procédures et on les laisse comme ça. Et eux, ils partent en France et c'est là où il y a cette histoire de dublinisation, là, les accords de Dublin qui font que les gens qui doivent demander l'asile sur le territoire du pays sur lequel ils sont arrivés. Donc quand ils arrivent en France, et ici on va leur dire bah non, il faut retourner en Italie. Et puis en Italie, en fait, les délais sont déjà passés pour qu'ils fassent les demandes parce qu'on ne les a pas accompagnés. Donc tout ce côté juridique là, hyper complexe, opaque, et puis souvent les choses ne sont pas faites pour qu'ils comprennent. Ici, l'un des enjeux aussi d'accueillir les gens, c'est et les aider à s'y retrouver, soi-même apprendre les lois parce qu'on ne les connaît pas, et puis pas forcément en tout cas, et puis les aider à s'y retrouver et bien les orienter pour qu'ils rentrent dans leurs droits s'ils en ont. C'est-à-dire, par exemple, si on est mineur, on est censé être pris en charge au niveau logement, formation par l'État. Donc ça fait partie des choses importantes pour les gens qui accueillent ou d'autres référents. Justement, l'idée d'un collectif, c'est aussi qu'il y ait ces ressources-là à disposition pour le transport, pour les amener, pour être là, en tout cas, dans les interactions avec les autorités, c'est important.
La relation actuellement des migrants avec la France, c'est officiellement, c'est l'administration qui couvre ça, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de services sociaux, quand même, qui sont habilités à aider aussi?
Là, s'ils sont reconnus comme mineurs, c'est l'aide sociale à l'enfance qui est l'instance qui se charge des mineurs en... qu'ils soient français ou pas français, mais les mineurs qui sont sur le sol national, je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. S'ils sont reconnus mineurs, du coup, il y a une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, donc des besoins élémentaires, d'éducation, etc. Bon, le problème, c'est que, par exemple, à Gap, donc il y a 90% de ceux qui font la demande qui sont déminorisés, qui sont pas reconnus mineurs. Alors que, enfin voilà, sur des critères souvent très arbitraires et avec des fois des cas de mauvaise foi absolument avérés, quoi. C'est plus un moyen de se débarrasser du coup des dossiers, d'éviter les prises en charge. Enfin, c'est vraiment en tout cas l'impression que ça donne vu la manière dont c'est traité à Gap. Après, c'est différent du coup dans d'autres départements. Voilà, ce qui fait que certains jeunes sont déminorisés à Gap et sont reconnus mineurs dans d'autres départements. Enfin, donc il y a des aberrations comme ça qu'on voit. Voilà, et on disait tout à l'heure, c'est très important qu'ils soient accompagnés dans les démarches, parce que s'ils sont pas accompagnés, la loi et l'administration est systématiquement contre eux, quoi. Il faut qu'il y ait des gens autour pour pouvoir faire essayer un peu de faire admettre ou reconnaître les droits, les peu de droits auxquels ils peuvent avoir droit, quoi.
Alors, après, bon, il y a l'accueil du migrant, et puis d'essayer de le placer dans des familles ou dans des maisons d'accueil. Et puis aussi, est-ce que les occupations viennent tout doucement, par exemple, de participer à l'association ou au collectif, je veux dire plutôt au collectif de soutien aux migrants, ou alors est-ce que, par hasard, ils peuvent trouver quelques activités ?
Il y a ce que nous, on peut proposer nous-mêmes, voilà, dans nos occupations, dans ce qu'on fait... au quotidien, quoi, donc qui nous accompagne, voilà, dans ce qu'on peut faire. Et puis après, là on commence sur le DIY, c'est de, voilà, de démarcher les clubs sportifs ou des centres de formation, essayer de trouver des formations, mmh. Voilà, en essayant de répondre à leurs besoins. Après, là, sur le DIY, c'est assez récent, en fait, cet accueil qui se met en place, donc ça, vraiment, on en est au début, quoi. Mmh.
Votre collectif est basé où, précisément?
Non, on est sur tout le DIY.
Sur tout le DIY. Et par exemple, Redar, pour les migrants déjà, qui a été constitué il y a 2 ans, vous avez des contacts avec eux ?
Oui, on a des contacts. Après, on n'a peut-être pas encore vraiment formalisé la manière dont on pourrait travailler ensemble. Ça, c'est peut-être encore un manque ou quelque chose sur lequel on aurait à travailler. C'est vrai que le Redar, ils travaillaient beaucoup avec je crois qu'ils attendaient que des familles soient orientées par l'administration à Valence. Voilà, des familles qui ne sont jamais arrivées, ce qui fait que ça a peut-être un peu bloqué, un peu cassé la dynamique à un moment. Donc voilà, là, c'est le moment, en fait, de réactiver ça.
Oui, je crois que le Redar tenait à rester dans les clous, hein, par rapport à l'administration, et c'est pour ça que, à mon avis, hein, il n'y avait pas une grande quantité de personnes accueillies sur le DIY. Là, il y a l'impératif de la vie qui pousse à œuvrer différemment, et c'est là où vous intervenez. Donc, qu'est-ce qu'il émane quand vous vous retrouvez avec ce collectif, avec les chevilles ouvrières? Qu'est-ce qu'il en émane de ces réunions? Est-ce que vous avez de l'espoir, ou alors est-ce que vous trouvez que c'est un combat un petit peu perdu?
Il me semble que, comment dire, c'est pas du tout un combat perdu, en tout cas, parce que, en fait, comme vous disiez, c'est la vie, en fait. Donc avec ses échecs et puis avec ses réussites, enfin voilà. Donc et puis c'est quelque chose de très concret. Donc aller faire à manger, donner à manger, c'est beaucoup, voilà, un peu basé sur le don, on va dire. Donc c'est vraiment dans la vie ordinaire que ça doit se faire, et avec, voilà, on fait pas des plans, voilà, on va accueillir tant d'immigrés, on va faire ci, faire ça, c'est comme dans la vie, quoi. On reçoit quelqu'un, on l'aide comme on peut. Si on peut pas, on cherche quelqu'un d'autre qui va pouvoir. Enfin voilà, ça se tisse comme ça, quoi. Donc c'est éminemment, c'est beaucoup, de l'espoir, quoi. C'est pas triste, en fait, pas du tout. Il y a ce côté urgence, tout ça, qui peut être un peu stressant, mais il faut pas non plus se mettre, trop de choses sur le dos. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, avec les gens qui arrivent. Ça marche ou ça marche pas. Avec, voilà, il y en a qui vont trouver leur content ou pas. Les migrants notamment, ils vont peut-être s'y trouver bien, ou d'autres vont vouloir partir. Bon, voilà, c'est pour dire, il y a pas un plan et puis des objectifs, et c'est pas du tout triste. C'est le quotidien, la vie, et tout le monde, vraiment tout le monde peut apporter quelque chose en fonction du temps qu'il a, des moyens qu'il a, je sais pas. Et il s'agit de voilà de d'accueillir et c'est aussi je pense qu'il faut se le dire, l'avenir va être fait de ça en fait, de ce genre de d'action collective pour accueillir. Nous-mêmes, on pourrait être accueillis un jour ailleurs, il faut se le dire aussi. Et puis, et c'est aussi des rencontres humaines super riches, donc c'est plutôt joyeux, quoi.
La Cini, des rencontres, tu en as faites depuis que tu es arrivé. Est-ce qu'elles t'enrichissent? Est-ce qu'elles te font du bien? Et est-ce qu'elles te donnent de l'espoir?
Oui. Et vraiment, je suis heureux d'être parmi les bénévoles et surtout ma famille d'accueil dans la région. Vraiment, ils me soutiennent beaucoup et là, vraiment, ils m'aident à faire des formations, d'avoir une formation que j'aime vraiment dans le cœur. Et là, du coup, ils m'aident beaucoup à faire tout. Du coup, je travaille avec eux, je les aide à travailler, tout ça.
Tu exerces une activité dans ton pays?
Non.
Non.
Ouais, mais vraiment, l'activité qui était vraiment, depuis étant petit, dans ma tête, c'était juste un charpente ou un carrossier.
Un carrossier?
Ouais, un carrossier. C'est les deux activités que j'aime beaucoup et du coup...
Et ça, c'est donc une idée que tu souhaiterais exploiter, ça, la carrosserie, par exemple, comme c'est... formation. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pensez à aider pour essayer d'aboutir à cette envie?
Oui, là où ça risque de bloquer, ça va être par rapport au statut administratif, quoi, pour intégrer une formation. Donc, mais ça, c'est, là, du coup, on attend un peu les... les retours de Valence de son entretien à la préfecture et après on va voir ce qui est possible de mettre en place.
Est-ce que proposent les centres de formation ici aussi? Et en tout cas c'est très important en général dans cette notion d'accueil de leur proposer des activités productives, de loisirs artistiques pour qu'ils se fassent une vie sociale ici. Et puis dans le quelqu'un comme la Cini qui est mineur et qui trouver une formation pour exercer un métier, c'est essentiel.
Il a dit carrosserie ou charpente
Et charpente,
ouais, oui. Menuiserie aussi, les qui touchent au bois, ouais. Et puis voilà, ça peut se faire aussi en attendant sur le tas,
De manière plus informelle, ouais. En attendant une formation plus professionnelle.
Robin, je voulais savoir quel sentiment faut-il éprouver pour être une famille ou une maison d'accueil à accueillir des migrants?
Je sais pas comment il faut se sentir pour être accueillir une personne. Faut juste se sentir. C'est sûr que ça prend du temps, ça prend, voilà, il faut avoir un peu de la place, il y a des conditions matérielles, et puis se sentir disponible à ça. Mais après, on n'est pas tout seul quand on le fait, parce que du coup, c'est ça l'idée du collectif de soutien, c'est qu'il y a des familles qui accueillent, mais qu'après, il y a plein de gens autour pour soutenir, pour les démarches, pour les frais, pour tout ça. Donc, pour moi, il faut juste être disponible à l'accueil. Je pense que ça prend pas forcément un temps énorme si on le prépare à l'avance. On en discute avant des modalités avec les familles d'accueil, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, etc. Donc, je crois que tout est envisageable. Il faut juste avoir envie de rencontrer, d'être prêt à la rencontre, c'est tout.
Thomas aussi, vous êtes d'accord avec ce que dit Robin?
Oui, tout à fait. Ouais. Ce qui est très important, c'est que les accueillants ne soient pas isolés, et de même que l'accueilli aussi. Donc, c'est de qui est toutes ces relations autour, ces supports pour pouvoir le vivre bien et puis que ça ait un sens, quoi.
Mais ce que je voudrais savoir, c'est donc tous les une fois par semaine, donc des migrants se retrouvent à Briançon, par exemple. Mais autrement, mis à part qu'ils soient accueillis dans des maisons ou pas, je ne sais pas. Hein, est-ce que leur vie en ce moment est essayer d'éviter les gendarmes, par exemple? Est-ce qu'ils sont toujours après eux pour leur signifier quoi que ce soit?
Bah, ça dépendra. Alors, ça dépendra du statut juridique et de l'état de la procédure éventuelle, que la démarche administrative dans laquelle la personne est engagée, quoi. S'il est en demande d'asile, par exemple, là, il est censé avoir un papier durant tout le temps de la procédure qui lui permet d'avoir un titre de séjour, on va dire, même si c'est très très précaire. Ça dépend de ça. Quand on est reconnu comme mineur, c'est pareil. Donc, même si on est mal pris en charge, en tout cas, ceci dit, je parle sans le savoir exactement, on doit avoir une sorte de ticket d'entrée, de droit d'être là sans être inquiété par les policiers. Mais en tout cas, oui, pour d'autres personnes qui seraient dans des situations d'entre-deux, etc., la question de la gendarmerie, enfin du contrôle policier est quand même quelque chose d'omniprésent. Alors par ici, je sais pas ce que ça en est, je crois pas que ce soit qu'il y ait une grosse pression, mais on lit des nouvelles sur des abus policiers de, par exemple, de renvoyer des gens qui sont d'une façon ou d'une autre dans une démarche qui devrait leur permettre de rester légalement sur les territoires, mais ou alors dans un recours d'une démarche, etc., donc dans un temps administratif qui leur permet d'être là. Et parfois, il y a des reconduites complètement arbitraires à la frontière. Ça arrive souvent, ouais.
En fait, même là, ce qui se passe à Briançon, c'est qu'il y a les gendarmes et maintenant l'armée, les chasseurs alpins qui patrouillent, et systématiquement, ceux qu'ils attrapent en train d'essayer de passer la frontière, ils les ramènent en Italie. Or, légalement, en théorie, il suffirait qu'ils disent oralement « je viens faire une demande d'asile » pour que les gendarmes soient censés les amener à l'administration qui les prendra en charge pour cette demande d'asile. Ils n'ont normalement pas le droit de les ramener à la frontière. Mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Et voilà, c'est complètement toléré par les administrations. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la frontière. Donc c'est la bande de 20 km autour de la frontière. Là, c'est comme ça que ça se passe. Après, là, comme c'est l'afflux là, qui a parlé aux Alpes, comme il est assez récent, enfin, disons, l'afflux un peu massif, là, c'est depuis cet été. La plupart, je pense, ils sont encore dans des démarches ou dans des attentes de réponses de l'administration et tout ça. Mais effectivement, il y a un moment donné où il y en aura une bonne partie d'entre eux pour qui ça sera négatif. Enfin, voilà, il y a des chances, quoi, en tout cas. Et là, à partir de là, il y aura des procédures d'expulsion qui vont être à craindre, quoi.
Voilà, c'est là, des fois les combats, j'imagine les combats perdus d'avance, parfois. Je suis un peu pessimiste. Et ce que je voulais savoir, Lassini, toi, ton arrivée à la frontière, ça a été l'unique tentative ou tu as essayé plusieurs fois de pouvoir entrer en France?
Bon, arriver à la frontière, c'était vraiment dur, c'était pas facile, et du coup, c'était vraiment compliqué pour nous, parce que c'est seulement qu'on n'est pas la route, et c'était dur pour nous, parce que j'étais avec deux de mes amis, du coup, on n'a pas pris la route, le bon chemin, parce qu'on ne connaissait pas la route, on suivait seulement les montagnes. Bon, on se disait, si on marche, on continue, on va arriver toujours dans une ville, on va voir une ville ou un village. On va se dire, c'est la France. Et là, du coup, vraiment, on a pris surtout un mauvais chemin. Mais du coup, on s'est perdu de la vue. Pendant dans les montagnes, et là, du coup, moi, je me suis retrouvé seul. Étant seul et marchant dans les montagnes. Du coup, je me disais, j'étais seul, je criais, je voulais un aide parce que j'avais faim, j'avais soif, j'avais rien avec moi, j'étais tout en seul dans la nature. Là, du coup, c'était ma première fois, ça m'arrive, et j'avais tellement peur. Je marchais seulement seul, et là, du coup, en marchant, je tombe vraiment sur une ville Je ne savais pas que c'était la France. Je me disais, c'est tout en Italie. Mais j'avais soif. Je me disais, bon Dieu, je suis sauvé. Et là, du coup, j'ai vu une ville. J'arrive, je vois des gens qui parlent le français. Et là, du coup, quelqu'un... la police, je vois la police de la ville qui m'envoie urgentement, qui appelle de l'ambulance les gens, parce que vraiment, j'étais vraiment malade et je ne me sentais pas bien. Et là, du coup, je me retrouve à l'hôpital. Ouais. Et...
Voilà, et donc, moi, des fois, ça me laisse silencieux, je ne sais pas quoi dire après. Est-ce que vous craignez quand même des traversées encore pour l'hiver, avec le froid dans les montagnes ?
Là, c'est le gros... la grosse question et la grosse inquiétude, hein, c'est que c'est probable qu'il y ait encore des traversées l'hiver, mais... Vu le manque de matériel, de moyens et les dangers que font courir les barrages, etc. Parce que c'est ça.
Hors des routes en plus.
Voilà, c'est ça. C'est obligé de tout le temps d'esquiver les barrages, de passer hors des routes, des sentiers. Donc c'est là où il y a du danger. Et là, avec la neige et le froid, ça va devenir vraiment, inquiétant. Ouais. Il y a déjà eu des accidents graves, des personnes qui ont fait une chute de 40 mètres en essayant d'échapper à un barrage. Bon, ça, c'était cet été, quoi. Mais là, ça va être avec la neige en plus et le froid, ça va vraiment poser des problèmes. Ouais.
Alors, cette soirée, on y revient un petit peu. C'est un soutien, donc. Et puis, vous êtes aussi en demande de finances, hein, pour aider les migrants. Comment ça se passe si on aurait besoin, par exemple, de vous aider financièrement? Vous avez des contacts?
Alors, on a un contact mail, c'est migrant26@riseup.net. Migrant au singulier ou au pluriel, les deux marchent. Donc, migrant26@riseup.net. Voilà, ça c'est le mail pour nous contacter. Après, je pense, à la soirée de soutien du samedi 18 novembre, ce sera une bonne occasion aussi. Et il y a un rendez-vous tous les mercredis après-midi au Pigeonnier à Luc-en-Diwa. C'est le moment où on cuisine, où on prépare pour la cantine du jeudi qui a lieu à Gap. Donc le mercredi, on prépare la nourriture, on fait la cuisine ensemble. Et du coup, c'est aussi le moment où des personnes qui veulent venir aider, soutenir, peuvent nous rencontrer.
Il y aura un infokiosque hein, à cette soirée, je crois aussi, qui est tenu par qui ?
Oh bah, ce sera par des membres du collectif. Hein. Ouais.
On peut parler de... Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste qui s'appelle 107 Lacari. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler de lui ?
C'est un collectif de rappeurs, là, donc je ne sais pas quels seront les membres présents ce soir-là. Ils chantent demain, jeudi 9, là, demain à Grenoble avec Kazé. Voilà, mais c'est tout ce que je peux dire, quoi. Un bon groupe de rap.
On ne présente pas Monette Wawa. Hein. J'ai envie de finir avec Lacine. Lacine, je ne sais pas si tu as répondu à ma question tout à l'heure, ouais. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais pour toi ?
Bon, moi, je souhaitais une vie meilleure et avoir une formation des carrosseries ou un chien-pente et la reçue dans ma vie. Et là, mais retourner un jour chez moi au pays. Et là, pour que ma grand-mère soit fière avec où mes parents se trouvent actuellement, ils soient fiers de moi. Parce que j'ai pas de frère, j'ai une personne, et là, ma grand-mère, elle peut pas s'occuper de moi. Donc maintenant, ça me demande même de me battre, de réussir dans ma vie, d'avoir un avenir meilleur pour moi. Et là, du coup... cet avenir, je pense que ici en France, je peux avoir cet avenir en faisant des formations de charpente ou des formations de carrosserie et d'avoir un séjour ici, de pouvoir rentrer chez moi au pays, voir mes parents, ma grand-mère surtout, vraiment que je l'aime de tout mon cœur qui m'a élevé des temps étant petit parce que j'ai perdu mes parents étant petit. J'ai jamais grandi avec mes parents, c'est tout le temps avec ma grand-mère. Et là, du coup, je suis ici, je vais me battre pour réussir parce que je lui ai dit que je vais réussir. Et là, elle m'a dit, si tu réussis, ça sera une fierté pour tes parents où ils se trouvent. Et là, du coup, j'espère que je vais réussir ici. Je vais avoir un avenir meilleur.
Eh bien, Lassini, Thomas et Robin, merci d'être venus nous présenter cette soirée et puis ce collectif de soutien aux migrants. Bonne soirée.
Merci.
Bonsoir.
Au revoir. Merci.
Muchacho, baila en la cumbia porque la cumbia emociona.
La cumbia cienaguera que se baila suave sola.
La cumbia cienaguera que se baila suave sola.
Y la bailan en mi tierra porque la cumbia emociona.
La cumbia cienaguera que se baila suave sola.
La cumbia cienaguera que se baila suave sola.
Y la bailan en Santa Marta, la cumbia está muy buena.
Que se baila suave sola, la cumbia cienaguera, que se baila suave
emociona.
Vamos a bailar la cumbia porque